Bien, que le Seigneur soit béni, lui qui permet que nous puissions nous rassembler en ces lieux pour écouter sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, le code de la route est aux automobilistes ce que la Bible est pour les enfants de Dieu. La plupart parmi nous ici, savent conduire. Il y a les marquages au sol, il y a des panneaux, maintenant, il y a des feux. Tout ça, c'est fait pour que on quitte son domicile et on va au lieu de destination, on y arrive en toute sécurité. Et qu'on puisse, du lieu de destination, qu'on rentre à son domicile en toute sécurité. C'est ainsi que, dans les panneaux, il y a des panneaux de sens interdit. Et maintenant, nous n'avons plus le feu rouge. À notre école, on nous a appris que quand le feu rouge s'allume, obligatoirement, vous avez le droit de vous arrêter. Qu'il y ait des véhicules de l'autre côté, d'un côté ou de l'autre, obligatoirement, il faut s'arrêter. Amen. J'insiste bien sur le mot obligatoirement, il faut s'arrêter. Ça veut dire qu'il y a un danger. Et nous devons faire très attention au danger. Il n'y a que des aventuriers qui, eux, parfois, ils brûlent les signaux, même le feu rouge. Alors, comme les signaux, donc le code de la route, le feu vert nous demande d'aller, il n'y a pas de danger. Allez votre route, poussez votre chemin. Et même la Bible, il y a aussi des choses qu'elle nous permet de faire et des choses qu'elle nous interdit de faire. Par exemple, dans 1 Jean 2, versets 15 à 17, on dit « N'aimez point le monde, parce que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. » Je vous épargne, vous connaissez le passage, je n'ai pas le temps de le lire ici. Mais là, on nous dit « N'aimez pas », on nous interdit. C'est ça, c'est interdit. Et puis, il y a le feu vert, ce qui est permis. Priez pour tous les saints. Priez les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Voilà, la Bible permet. C'est le feu vert. Comme il y a des sens interdits, il y a le feu vert, il y a aussi le feu rouge. La Bible présente cela. Alors, le Seigneur notre Dieu a permis que ce soit Jacques qui nous parle, qui nous annonce le feu rouge. Alors nous devions faire attention à ce que la Bible nous dit. Nous avons lu la parole de Dieu dans Jacques chapitre 3, versets 1 à 12. Là, nous allons découvrir notre thème de ce matin. Je lis. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Là, c'est un sens interdit. Et puis, on attire l'attention des prédicateurs que nous sommes. La responsabilité est grande. Quand nous serons sur le Seigneur, ce sont les prédicateurs, ceux qui enseignent la parole de Dieu, qui seront jugés plus sévèrement. Parce que les gens ne peuvent pas connaître le Seigneur, ne peuvent pas craindre le Seigneur, si jamais ils sont ils ne sont pas enseignés. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Nous sommes dans la Bretagne ici. Il y a souvent des chevaux. Il y a des séances de courses équestres, comme on dit. Bon, le cheval est bien connu. Il y a un mort dans sa bouche pour savoir le conduire. C'est un discours qui passe très bien dans le milieu Bretagne, le milieu breton. Et puis, il y a aussi des bateaux. Donc, le milieu ici, les frères et sœurs présents, ils ne sont pas ignorants de ce qu'on appelle le gouvernail. Un tout petit instrument là-bas. Mais qui conduit un paquebot, un navire très grand. Un tout petit. De même, la langue est un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. Voyez, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est à l'affirmatif. Hein. La langue, telle qu'elle est, on dit ici que c'est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guéhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Nous le voyons dans le cirque, cette affirmation. C'est arrivé, nous voyons ça aujourd'hui. Mais à cette époque-là, ce n'était pas encore évident. Mais maintenant, aujourd'hui, nous voyons même le tigre, même le lion. L'homme s'amuse avec dans les cirques. L'éléphant aussi. Le serpent, donc le cobra, on a envie. Hein. L'homme a su le dompter. C'est dit ici, c'était déjà prévu. Le Seigneur savait ça, a su ça. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Ah. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Même s'il y a des techniques aujourd'hui pour pouvoir faire passer de l'eau salée à l'eau douce. Mais naturellement, ce n'est pas possible. Maintenant, aujourd'hui, avec l'intelligence que ça a donnée, la technologie, tout ça, la science, on arrive maintenant à dessaler l'eau. Il y a un documentaire que j'ai vu sur le Cap Vert. Il y a un problème d'eau là-bas, mais l'eau de l'océan, on la transforme en eau douce. En eau douce. Voilà, bien-aimés, le feu rouge dont il est question. Je vais reprendre le verset 6 et 8 dans cette version. C'est encore bien rendu. Je vais d'abord le lire ici pour que vous voyez un peu la nuance, pour que vous compreniez. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guéhenne. 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. La langue aussi, dans cette version, c'est parole de vie. La langue aussi est comme une flamme. C'est là que le mal habite. Tout entier. Notre langue met le feu à notre vie, de la naissance jusqu'à la mort. Ce feu vient du lieu de souffrance lui-même. Mais la langue, personne ne peut la faire obéir. C'est une chose mauvaise qui ne reste jamais tranquille. Et elle est pleine d'un poison qui donne la mort. Vous voyez, mes bien-aimés, le feu rouge dont il est question. Là, c'est une pancarte, un panneau, ou bien le feu rouge. La Bible nous le dit. Donc, chacun d'entre nous doit faire attention. On doit faire attention à la langue. Ici, c'est la langue, pas comme la langue organe, mais la langue, un sens du langage. La Bible, pourtant, nous dit que l'homme est une créature si merveilleuse. Si merveilleuse. Mais dans cette créature si merveilleuse qu'est l'homme, il y a cet organe-là, un tout petit. Bon, d'autres concepteurs de Dieu, comme pour mettre de l'emphase, il dit que, vous voyez, ce n'est pas par hasard que le Seigneur a mis la langue entourée des dents, sur des gardes du corps. Il dit, attention, il ne faut pas franchir la limite. Parce que la langue, elle est dangereuse. Il y a un danger qu'elle présente. Amen. Voilà, la langue, bien-aimée. Je vais attirer votre attention là-dessus. Je vais... Comment on ne peut pas dire en français. Je veux attirer votre attention et la mienne, parce que nous sommes tous concernés, et vous et moi. Cette parole, ce n'est pas la parole de Corneille, c'est la parole de Dieu. Quand je la prêche et pour vous, et pour moi-même. Amen. Nous devons faire attention, bien-aimés, avec la langue. Alors, les Écritures saintes par Jacques attirent notre attention sur l'étendue du pouvoir destructeur de la langue. Alors, nous devions faire attention. Alors, la Bible elle-même dit que la langue est un feu. La langue est comparée à un feu. Comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Vous savez, des forêts entières brûlent, vont en fumée. Avant une petite flamme, quand vous voyez une boîte d'allumettes, une petite tige là, dès que tu la frottes contre la boîte, ça produit une flamme. Tu mets quelque part là-bas, le feu prend. Et c'est des étendues immenses de forêts qui vont fumer. Alors, les paroles mauvaises, médisantes, sont capables de semer rapidement la destruction de l'être. Et comme la fumée qui accompagne un feu, les paroles peuvent imprégner tout l'entourage et causer la ruine. Le mal causé par la langue peut s'étendre au-delà de l'individu et affecter tous ceux qui se trouvent dans la sphère d'influence. Dans Marc chapitre 7, verset 20, nous avons lu le passage. Marc chapitre 7, verset 20. Marc chapitre 7, verset 20, nous lisons. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Vous voyez? Donc, la langue est capable d'abord de suyer l'homme lui-même, la personne dans laquelle la langue se trouve, et souiller l'entourage, et même tout ce qui se trouve dans sa sphère d'influence. Nous devons faire très attention. Les Écritures disent que au verset 2 que nous branchons tous. C'est-à-dire que tous commettons des erreurs. Alors, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. Tous commettons des erreurs, mais, bien-aimés, faisons plus attention à la langue. Parce que les Écritures parlent beaucoup plus du mal que peut produire, que peut faire la langue. Si vous lisez même dans les livres de sagesse, les proverbes, psaumes par exemple, on parle toujours du mal de la langue, toujours du mal de la langue. Et ici, la Bible même le dit clairement que la langue est un feu, c'est le monde de l'iniquité. D'où, ça doit attirer notre attention. Donc, vous faites très attention. Parce que ça cause des dégâts. D'autres qui sont quelque peu irréparables. Dans Romains chapitre 3, versets 13 à 14, parce que la Bible elle-même parle mieux. Voici ce que la Bible dit. Parce que la langue nous amène facilement à pécher. Ici, la Bible dit, leur gosier est un sépulcre ouvert. Vous voyez comment le terme, c'est trop dur. Hein? Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Tout ça, ça passe par la langue. Vous voyez? Bien-aimés, faisons attention. La langue a une immense capacité de parler mal, de façon inappropriée et fausse. Alors, le livre de sagesse aussi dit... Dans Proverbe 10, verset 19, Proverbe 10, verset 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Ah, donc ici il y a un début de solution. Il y a moyen de retenir ses lèvres. Bien qu'on dit que l'homme, il n'y a aucun homme qui est arrivé à dompter la langue, mais il y a quand même moyen de s'échapper à ce mal que produit la langue. Bien-aimé, dans Jérémie chapitre 18, verset 18, voici toujours le mal que peut produire la langue. Jérémie chapitre 18, parce qu'elle peut nous amener à pécher, d'abord. Il faut essuyer la personne, infecter l'entourage, tous ceux qui sont dans sa sphère d'influence, nous amener à pécher. Voici ce qu'elle est encore capable de faire. Pour que nous aussi nous prenions conscience de cela, afin que nous ayons de la sagesse pour sortir de ce piège. Dans Jérémie chapitre 18, verset 18, voici ce qui est dit. Ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Ici, il s'agit de Jérémie. Vous voyez? Il dit, venez. Tuons-le avec la langue. Venez, tuons-le avec la langue. On veut tuer la société de Dieu. Comment ils vont faire? Ils vont monter un complot. Ils vont dire du mal qu'on va mettre dans la bouche de Jérémie. Et puis, on va trouver un prétexte pour pouvoir le tuer. C'est conscient. On utilise la langue pour tuer. Bien-aimés, il y a aussi un triste exemple que la Bible nous donne. Pour que toi et moi faisions attention à la langue. Il y a un juge, Jephté. Nous allons voir ce que la Bible nous dit, ce qu'il a fait, les dégâts que cela a causé. Juges chapitre 11, versets 29 à 40. Je vais ouvrir le passage. Juges chapitre 11, versets 29 à 40. Comme quoi, même si on est rempli du Saint-Esprit, il faut toujours faire attention à la langue. Parce qu'on dit que personne n'a pu la dompter, si ce n'est que Dieu. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephté. Il traversa Galade et Manassé. Il passa à Mispé de Galade, et de Mispé de Galade, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephté fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. » Jephté marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Aroer jusqu'à vers Minit, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel-Keramine. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephté retourna dans sa maison à Mitzpah, et voici sa fille sortit au devant de lui avec des tambourins, et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils, ni point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel, et je ne puis le révoquer. » Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, fils d'Ammon. » Et elle dit de son père, « Que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, j'errerai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Il répondit, « Va !» et la laissa libre pour 2 mois. Et s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point d'homme, connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephté, le Galadite, 4 jours par année. Vous voyez, mes bien-aimés? Jephté, un juge en Israël, il va faire un vœu, alors qu'il n'a qu'une seule fille, il va faire un vœu. Il dit, si le Seigneur tu me permets de gagner, de remporter cette bataille, à mon retour, la personne qui sortira la première, je vais l'offrir en holocauste. Vous savez ce qu'est l'holocauste? On prend le sacrifice, par exemple la bête, on la découpe en morceaux. C'est ce que le Seigneur avait demandé à Abraham pour son fils Isaac. L'offrir en holocauste. C'est-à-dire, vous prenez donc Isaac, ce qu'Abraham devait faire, le découper en petits morceaux. Et puis mettre sur le bois, mettre du feu. C'est ce que Jephté a promis au Seigneur de faire. Et c'est sa fille qui va venir. Et il ne peut plus révoquer ce qu'il a dit. La langue est un feu. Est un feu. Elle a du venin mortel. Voici ce qui est arrivé. Parce que c'est un message, souvent, dans l'église, on ne le prêche pas. Alors, parce que peut-être soi-même, on est impliqué. Mais moi, le Seigneur m'en a parlé, m'a mis à cœur d'en parler. Vous savez, il y a des choses difficiles. Mais il faut obéir au Seigneur. Voici ce que le Seigneur avait révélé à un de ses enfants à cause de la médisance. Dans un songe, il voit quelqu'un qui marche. Pendant que la personne était en train de marcher, le frère voit dans le songe la chair de la personne qui tombait. En train de la personne marcher, la chair continue à tomber. Jusqu'à ce que la personne est devenue squelette. Alors le Seigneur dit, tu vois, ta médisance, ce qu'elle fait sur la personne. Alors maintenant, ce que je te demande de faire, c'est de ramasser la chair, de replacer sur la personne. C'est possible? Donc, c'est un mal qu'on fait qui est irréversible. Faisons très attention. Alors le Seigneur dit, voilà, il faut faire très attention maintenant, parce que c'est un frère, c'est mon enfant. Voilà ce que tu as fait de lui. Tout ce que je te demande, c'est de replacer la chair sur son corps. Et on ne peut pas. Qui peut la chair la replacer sur le corps et que ça puisse tenir? Qui peut le faire? Vous voyez les dégâts, bien-aimés, de la médisance. Devons faire très attention. C'est un feu rouge. Partout ailleurs, les livres de sagesse en parlent. Mais c'est Jacques qui a eu la responsabilité de montrer l'étendue de la gravité du pouvoir qui se trouve à la langue. Jacques. Vous savez, à l'émission, toute une histoire. Il y a souvent, parfois je suis. Alors, il y a parfois ce qu'on appelle des secrets de famille. Une fille a mis au monde très tôt un enfant, qui se trouve une fille aussi. Sa mère lui dit, non, il faut que tu fasses des études. Bon, je ne sais pas, ils n'avaient pas d'autre solution. La mère va demander à sa fille de régner sa fille. Il va la régner. Et peut-être on va trouver une famille d'accueil. Quelques temps après, la maman de la fille, sentiment d'amour, d'affection, elle ira récupérer la fille, sa petite fille. Et la petite fille va grandir, appelant sa grand-mère sa mère. Et sa mère, sa sœur. C'est comme ça qu'elle a grandi, parce qu'on ne lui avait jamais dit ça. Elle a grandi comme ça, appelant sa mère, sa sœur, et sa mère, sa grand-mère, sa mère. Jusqu'à ce qu'un jour, elle a découvert ça. Tu vois le mal que ça fait au niveau de la fille. Qui vient de découvrir que sa sœur là, ce n'est pas sa sœur, c'est sa mère. Elle en a souffert depuis ce moment-là, jusqu'à ce qu'elle en a parlé à la télévision. Vous savez, il y a encore des parents qui ont le courage de dire à leurs enfants que toi, tu n'étais pas désiré. D'ailleurs, toi, tu n'étais pas désiré. Il y en a qui le disent. Hein? Bon. Dites à un enfant comme ça que tu es venu au monde, c'est comme par accident, on ne t'a pas désiré. Qu'est-ce que cela fait? Mais vous avez tué cet enfant. Vous ne savez pas ce que les gens disent? C'est là qu'ils n'ont pas été désirés. Quelle vie mène-t-ils? Hein? La langue. Pouvoir mortel. Venin. Ça tue. Vous voyez des vies entières gâchées à partir de la langue. Faisons très attention, bien-aimés. Nous, enfants de Dieu, la Bible nous donne des solutions. Parce que rien n'est possible à Dieu. Il est question que toi et moi prenons conscience. Prenons nos responsabilités. Ce que Jacques dit ici, il le dit à tous et à chacun. Donc, tous et chacun devons prendre nos responsabilités. Amen. Faisons très attention. Parce que la Bible en parle, la Bible ne cache rien. Vous savez l'avantage que nous avons, nous, chrétiens? La Bible ne cache rien. La Bible, Dieu nous dit tout. Mais de l'autre côté, le diable, lui, il cache beaucoup de choses. Nous, quand la Bible dit, il y a deux chemins. Il y a le sentier, il y a beaucoup d'obstacles, tout ça, des épines, tout ça. Mais au bout de ça, la vie éternelle. Mais de l'autre côté, un boulevard. Et allez, on y va là-bas comme on veut. Boulevard. On n'a pas de gêne, hein? On marche comme on veut. Mais au bout, c'est quoi? La mort. Éternelle. La Bible ne nous cache rien. Elle nous dit tout. Ici, on nous dit la langue, la Bible ne cache rien. Elle nous le dit. Comment est-ce que Dieu, lui, qui sait ça, a fait des choses comme ça? Bon, toi, tu es qui pour poser la question pourquoi Dieu a fait ça? Tu es qui? Dieu, il est dans le ciel, il fait ce qu'il veut. Amen. Il est dans le ciel, mon bien-aimé. Et il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Toi, tu n'as aucun pouvoir de dire pourquoi tu as fait ça. Non, non. Parce que j'entends les gens, pourquoi Dieu a fait ça? Attention, bien-aimé. Fais très attention. Toi, tu es qui pour poser la question? Alors, le verset 6 et 8 résume bien le caractère mauvais de la langue. Alors Jacques nous dit, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc, par là, j'ai trouvé une solution. Donc, on peut faire autrement. Il ne faut pas, mes frères, que ça soit ainsi. Donc, on peut faire autrement. Alors, cette exhortation de Jacques nous montre qu'il y a moyen de s'en sortir. C'est ainsi que David a dit, après avoir pris conscience, David, il a pris conscience, voici ce qu'il va nous dire, va nous proposer, et ce que je nous propose qu'on lise. David, c'est psaume 39, verset 2. Psaume 39, verset 2. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Voilà. Bien-aimé, voici la porte de sortie. La porte de sortie. Pour pouvoir contourner le méfait de la langue. David nous le dit. Je veillerai donc, toi et moi, veillons sur nos voies. Alléluia. Veillons sur nos voies. Veillez. C'est la responsabilité de chacun. Je veillerai sur mes voies afin de pécher par ma langue. Deuxièmement, il dit, je mettrai un frein à ma bouche. C'est possible. Alléluia. C'est possible, bien-aimé. C'est possible. Veillez sur ses voies. Chacun de nous doit veiller sur ses voies. Sa responsabilité est individuelle pour le bien de nous tous, parce que l'Église, c'est une famille. Nous sommes tous enfants d'un même père, d'une même mère. Notre père étant Dieu, et la mère, c'est l'Église que nous sommes, dans laquelle nous sommes. Amen. Veillez. Que chacun veille sur ses voies. Et mettre un frein à la bouche. Parce que des fois, vous voulez... fermez la bouche. C'est une bonne étude. Ah, mais oui. Il faut dire, non, parle, allez-y. Je te sens venir. Non. Il ne faut pas insister. Donc, quelque chose de mauvais allait être dit, alors la personne retient. Nous avons cette capacité, nous, enfants de Dieu, parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Maintenant qu'on nous apprend le mal que produit la langue, nous sommes en mesure de prendre des précautions pour pouvoir éviter ce mal. Et c'est ce que David nous propose ici. Veillez sur ses voies, afin de ne pas pécher par la langue, premièrement. Deuxièmement, mettre un frein. C'est possible. Il ne faut pas parler comme Bon, chez moi, il y a une expression en lingala. Donc, il parle comme un perroquet. Il y a des gens qui parlent sans frein. Mais écoutez, mon frère, ma soeur, un peu de retenue. Le perroquet, quand ça vous parle, il parle de frein. Alors, nous aussi, nous devons faire attention. Amen. Parce que si le Seigneur vous demande de remettre la chair sur le corps de la personne, sur le squelette, tu es capable de le faire? Alors, faisons attention. Alors, faisons comme David, une illustration de sagesse, mettre un frein, veiller sur ses voies, je veux dire, veiller sur ses voies, et mettre un frein. Ça nous aiderait. Que le Seigneur nous aide, bien sa parole. Amen.